Hello, friend.
Il t'a déjà baisé ici, sur le canapé?
Non, pas encore.
Jan, director inside sales. They call me Jan the man.
Oh.
When you say people, you mean companies, right?
Actually, no, sorry, Jan the man. By people, I do mean people, humans, consumers.
Cocksucker!
Yeah, not to tell you that fucking word.
I'll tell you what I think. Wanna know what I think, Fox?
I'm hanging on it.
Are you? I think you're upset about the shushing. I think you were pissed off about the Hitler mustache on your father-in-law. I think you shook up that can of soda on purpose. And I think you're clomping now, and you've made up some bullshit excuse about your feet, and it's all under the guise of Parkinson's. That's what I think.
Rouge, c'est non. Double rouge, c'est double non.
The situation's a lot more nuanced than that.
You think I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks like me for the rest of your life.
You know, everyone says it's not supposed to make sense, like that's the whole point, dude. And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling. Just don't sell me shite and tell me it's gold. All right, I might be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
We are God. We're thoughts. We are as
Are you an idiot?
No, sir, I'm a dreamer.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Sari Folie, l'épisode 15 de la saison 4. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Ça va bien?
Ça va toujours.
Ça va toujours, eh bien tant mieux. Nous sommes repartis pour une nouvelle émission qui vous parle série télévisée. On va, comme chaque semaine, démarrer l'émission avec une revue des nouveautés que tu as pu te mettre sur ton écran finalement et regarder pour nous.
Oui, encore une fois, donc trois nouveautés plus ou moins récentes. Alors, je vais commencer tout de suite avec la première. Tu te souviens que la fois passée, j'ai parlé de trois nouveautés qui m'avaient plu.
Oui.
Ici, ce sera pas vraiment le cas, non, puisque on va commencer déjà avec Beyond, une série Freeform. Freeform qui était l'ancien ABC Family, donc un format plutôt destiné aux ados, tel qu'on peut l'imaginer. Et ici, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, suite à un accident, se retrouve dans le coma. Et donc, il va rester dans le coma pendant plusieurs années, jusqu'au moment où il se réveille. Mmh. Par miracle. Hein. Et bon, on a un petit peu le retour de l'enfant tant attendu chez lui. Un modèle assez traditionnel qu'on a déjà vu souvent. Jusqu'ici, tout va bien.
Oui, même si c'est du déjà vu.
Voilà. Sauf que, en fait, assez vite, il va se retrouver dans une situation où on va se rendre compte qu'il a des pouvoirs surnaturels dus à son coma, mais on ne sait pas trop comment ni pourquoi, et que certaines personnes sont au courant de ses pouvoirs et vont donc essayer de prendre possession du jeune homme en question. Et je me suis plus ou moins arrêtée là dans ma compréhension de la série. Voilà. En gros...
Mais pourquoi tu arrêtes si tôt, justement?
Mais ça... Ça m'a pas du tout intéressé, en fait, cette histoire. À un tel point, je vais t'avouer que j'ai regardé le deuxième épisode parce que j'avais oublié totalement de quoi parler le premier. Et donc, j'ai dû me rafraîchir un petit peu la mémoire. Mais une fois que ma mémoire était un tout petit peu rafraîchie, je me suis vite ennuyée et je me suis vite détournée de mon écran malgré tout. Donc voilà, c'était pas du tout une série qui m'a donné envie de la suivre. Les acteurs sont très communs, la situation semble déjà vue un milliard de fois. Et donc oui, on reste là-devant sans trop de conviction, quoi.
Bien, bon ben voilà, le titre de cette série à ne pas regarder.
Beyond.
Beyond.
Voilà, donc je ne sais pas du tout où il voulait en venir et je m'en fous.
D'accord.
Je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir résumer la situation. Donc voilà, ça c'était pour la première. La deuxième est à peine mieux. Ça s'appelle Shut Eye et c'est une série Hulu. Alors cette fois-ci, nous suivons un arnaqueur professionnel spécialisé dans la voyance qui est chargé d'une petite équipe de voyants qui et lui-même est un des sous-chefs d'un grand chef mafieux de la voyance, on pourrait le résumer comme ça, qui chapeaute un petit peu le tout et qui forcément dirige l'ensemble avec une main de maître, ce dont on va assez vite se rendre compte vu que la sœur de notre héros en question a essayé de faire une entourloupe et elle va être sévèrement punie pour ses actions. Donc voilà, nous nous retrouvons dans cette situation-là. A priori, bon, ça pourrait être plutôt attrayant. L'acteur ne m'est pas inconnu et est plutôt sympathique. Le monde de la voyance, disons que c'est pas un milieu qu'on a déjà beaucoup vu, et donc ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Sauf que très vite, on se rend compte qu'on va quand même avoir beaucoup des histoires un petit peu de mafia, avec il va falloir échapper au grand méchant chef parce que si on veut pouvoir reprendre son indépendance. Et puis il y a des histoires avec sa femme qui essaie aussi un petit peu de l'arnaquer par derrière, mais j'ai pas exactement tout suivi parce que depuis je l'ai vu déjà il y a quelques semaines et je crois que c'est surtout ça qui m'a convaincu que non, finalement, ça m'intéressait pas trop. Le personnage féminin principal me semblait absolument pas crédible. Et tu sais à quel point je suis de moins en moins tolérante vis-à-vis de ça quand on a un seul personnage féminin vraiment et que en plus il est pas crédible du tout. Voilà.
Tu es intransigeante.
Voilà, exactement. Donc j'ai laissé tomber également après deux petits épisodes et je n'y retournerai plus.
Voilà. Et dernière petite série à passer sous le crible de tes critiques.
Oui, et c'est toujours pas une série, une critique positive. Je suis désolée pour aujourd'hui, mais peut-être que ça introduira notre sujet par la suite. Il s'agit de la série Star. Cette fois-ci, il me semble que c'est sur la Fox. Je crois, il est toujours possible que je me trompe.
Il va falloir prendre des notes quand même à un moment donné pour être sûr de ce que tu racontes à l'antenne, Aurore.
C'est pas bête ce que tu dis
c'est
là.
C'est pas bête. Hein.
Ou bien alors peut-être que je prépare en faisant d'autres choses et que donc, voilà, bref.
L'organisation, ce sera pour la prochaine fois.
L'organisation,
alors,
ce
Star.
Sera pour un jour, peut-être. Donc, Star, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle, au départ, on suit une jeune fille qui est passée manifestement de maison d'accueil, de famille d'accueil en famille d'accueil. Enfin, on voit qu'elle a une vie personnelle, familiale, totalement déstructurée. On apprend assez vite aussi qu'elle a une sœur et qu'elles ont été séparées. Sa sœur a été placée dans une autre famille d'accueil. Elle va tout faire pour essayer de retrouver sa sœur. Pourquoi ? Parce que elle a un projet, c'est de devenir une grande star de la chanson avec sa sœur. Et en plus, à travers les réseaux sociaux, elle a rencontré une troisième jeune fille qui, elle aussi, fait de la musique, qui est, me semble-t-il, auteur-compositeur. acteur et donc qui va leur proposer de se réunir pour former un groupe et commencer à vraiment faire de la chanson à trois. Donc elle va chercher sa sœur. Bon, les circonstances ne seront pas positives du tout. Je ne veux rien dévoiler, mais sache que c'est plutôt lourd comme situation. Elle la sort donc de cette famille d'accueil dans laquelle la situation n'était pas idéale, et elle s'enfuit toutes les trois pour aller rejoindre leur marraine qui tient un salon de coiffure. Jusque-là,
rien de mal, hein.
Voilà, pourquoi pas. Mais qui aussi probablement a un petit peu touché au milieu de la chanson quand elle-même était plus jeune, avec probablement la mère des filles en question. Et il se serait pas, enfin ça se serait pas très bien passé, mais on n'en sait pas plus. Et il y a un producteur qui tourne autour de tout ça, qui s'était occupé de la mère et de la marraine en leur temps, et qui va assez rapidement se proposer de s'occuper de ces filles-là pour les produire, et donc les faire atteindre évidemment le succès. Bon, à mon avis, je vais m'arrêter là dans mon explication.
Oui, parce que tu as bien regardé. Qu'est-ce voilà. qui ne t'a pas plu dans tout ça ?
Alors, qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans tout ça ? Déjà, on insiste beaucoup sur le côté pathos dans la vie de ces pauvres jeunes filles qui ont vraiment vécu toutes les misères possibles et imaginables. C'est très très caricatural pour ça dans les personnages, surtout que pour ne rien manquer au côté choc des caricatures, à côté de ces deux filles qui ont été tringlées de famille d'accueil en famille d'accueil, on a affaire à la troisième fille qui le cache au départ, mais dont nous savons qu'elle est en fait la fille d'un chanteur très très connu, célèbre, et donc elle est très riche, elle vit dans les quartiers riches de New York, etc., etc. Donc évidemment, tout ça fait très très gros, quoi, hein. Donc, ça semble... Ça essaie de provoquer du sentiment, mais avec des ficelles tellement grosses que tu n'y crois à aucun moment. Alors, il s'agit d'une série qu'on pourrait situer dans la lignée de Empire, pour ceux qui s'y sont intéressés. Pourquoi ? Parce que un des deux créateurs, est Lee Daniels, qui est aussi derrière Empire. Et donc c'est aussi une série avec un milieu plutôt afro-américain dans le secteur de la chanson. Ici, les chansons sont quand même un tout petit peu moins insupportable que dans ce que j'avais vu d'Empire, c'est-à-dire les deux premiers épisodes. Je ne sais pas si ça s'était amélioré par la suite, mais c'est du R&B vraiment de base. Il n'y a pas non plus de quoi s'extasier, et les actrices ne m'ont pas du tout accroché à aucun moment. Par rapport à Empire, où c'est vrai que tout était caricatural, mais il y avait un personnage vraiment attachant qui est dès le début, qui était le personnage de Cookie, si je me souviens bien. Ici, c'est pas du tout le cas. La marraine est jouée par Queen Latifah. On pourrait se dire que probablement que leur intention était d'en faire un personnage un petit peu haut en couleur pour cette série, mais c'est assez plat, quoi. Ça marche pas vraiment, et donc... je n'irai probablement pas plus loin non plus pour cette série-là, voilà.
Voilà, on a écouté tes différents choix de la semaine et que tu as revu avec grand plaisir, et puis surtout mis de côté.
Voilà.
On va marquer une pause musicale, si tu le veux bien.
Mais je le veux bien.
Qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors, on va s'écouter un morceau qui, justement, était passé dans Star. Hein. Il s'agit de Groove is in the Heart de D-Light. Thank you.
join today and have some fun.
When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another.
That's right.
Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish.
Sing it, baby.
About the groove.
Sing it.
Générique par excellence pour nous accompagner durant cette émission de Série Folie qui va parler d'un sujet comme chaque semaine. Quel est-il, Aurore ?
Ah bon, on va parler d'un sujet, étonnant.
Mais oui.
D'accord, on va parler des rôles et des limites de la critique série.
Bon.
Et vu ta tête, t'es déjà ravi, ça se voit.
Bah oui, évidemment. Ça va être chouette. Alors.
Bon, on commence tout de suite avec les rôles éventuels de la critique.
Bah oui, ça sert à quoi ?
Bah
oui.
Tu veux bien ? Bon, allez. On commence donc par une petite distinction. Puisque ben, finalement il existe deux types de critiques, de manière très très grossière, hein, évidemment. Nous aurions les critiques professionnelles et les critiques amateurs, on peut l'imaginer comme ça.
Ok.
Et probablement, probablement qu'ils n'ont pas exactement le même rôle, ni les mêmes objectifs. Donc, quel serait le rôle d'un critique pro ? Si on les écoute, globalement, la raison principale, leur raison principale d'exister, ce serait le fait qu'ils aident le public, le grand public, à faire leur choix parmi la très grande diversité des séries actuelles.
Ouais.
Pourquoi pas ? Alors, évidemment, on peut être plus ou moins d'accord avec, avec déjà cette idée-là et puis avec la pertinence de des choix qui, vers lesquels il guide le public en question. Mais on est là pour ça. Hein, on va peut-être en discuter. Et
oui.
Puis, du côté amateur, eh bien, c'est plus un besoin de partager une passion qui sera à l'œuvre, même si là aussi, finalement, j'ai commencé par cette distinction entre critique pro et critique amateur. On peut aussi admettre que dans un certain nombre de cas, probablement même dans le plus grand nombre des cas, les professionnels sont largement des amateurs qui ont fini simplement par acquérir suffisamment de reconnaissance pour pouvoir en arriver au niveau auquel ils en sont. Donc cette distinction reste très très théorique, évidemment. Et puis aussi parce que bah, finalement, est-ce que c'est pas en grande partie aussi une envie de partager leur choix à eux qui guide leur métier finalement, hein, voilà.
Oui, alors justement, moi je commence déjà par attaquer les pros, on va dire.
Oula,
oula.
Tu vas te faire des ennemis, ça y est, on est foutus, vas-y.
Non, du tout, mais quand je vois une critique faite par des gens qui en vivent finalement.
Mmh.
Je me demande toujours quelle est la part d'objectivité qui n'est pas tout à fait objective. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, les petites sous-tables,
oui.
Les maisons de production qui sont derrière, ce genre de choses.
Je vois ce que tu veux dire, oui. Alors, oui et non. Enfin, en tout cas, évidemment, ici, je me lance dans la bataille avec un avis très, très personnel, finalement. Mais j'ai le sentiment, malgré tout, que du côté série, on n'en est pas au même niveau que du côté cinéma à ce niveau-là.
Mmh.
On a quand même une plus grande liberté laissée aux critiques, même si c'est vrai que dans certains systèmes, comme le système Netflix qui s'est mis en place depuis ces dernières années, et la possibilité pour les critiques professionnels d'accéder aux épisodes à l'avance, etc., peut-être qu'il se met en place aussi une certaine... enfin, une sorte de relation privilégiée qui va peut-être favoriser les papiers bienveillants,
oui, mais c'est ça.
Etc.
Moi, je prends un exemple d'une autre radio nationale qui faisait l'éloge de Westworld il n'y a pas si longtemps,
mm-hmm.
En disant bien que, bah voilà, elle n'était pas encore tout à fait disponible, mais on la voyait en complet, et tu sentais le placement de produit comme sur d'autres séries. J'ai pu entendre vraiment qu'on offrait le coffret DVD, ce genre de choses.
Mmh.
Et donc, voilà, c'est juste ça, quand ça devient une sorte d'article trop bien écrit qui ne tombe pas, comme dans cette émission, hein, tes critiques, bah, t'aimes pas, t'aimes bien, on a bien compris que c'est juste ton avis, c'est pas...
Oui, c'est ça, de toute façon.
T'es pas sponsorisé.
C'est donc... pas comme si j'étais payé par qui que ce soit.
Voilà.
Pour donner mon avis, je le donne, comme ça, gratuitement. Je passais par là, justement, et voilà, je suis arrivée... Mais oui, je peux comprendre que en effet, dans le cas où on aurait un média qui aurait un accord pour pouvoir offrir des DVD, ça peut jouer. C'est vrai aussi. Par exemple, j'écoute un podcast de mini chronique qui passe sur la radio suisse. la radio publique suisse. Et là aussi, tu sens que quand c'est une série qui a été achetée par la chaîne nationale et qui va être diffusée par la chaîne nationale, eh bien, la critique est étonnamment beaucoup plus positive que si ça n'avait pas été le cas. Donc, c'est vrai que probablement dans ces cas-là, ça peut jouer. L'autre secteur dans lequel moi je le ressens énormément, c'est pour ça que je disais plutôt non au départ, c'est que en grande partie pour tout ce qui est les séries, enfin il y a quand même une grande majorité qui sont des séries américaines, et jusque là on ne sentait pas encore trop cet impact là. On le sent de plus en plus, c'est vrai. Mais par contre, du côté des productions maison, productions françaises, là, ça se ressent beaucoup, beaucoup plus. Et par exemple, j'ai l'impression que sur une série comme Les Grands, il n'y a pas si longtemps que ça, ça a beaucoup joué dans les critiques très positives que cette série a pu recevoir. Et qui, moi, m'ont laissé assez perplexe, je dois dire. Évidemment, ça signifie pas qu'on aurait toute la critique professionnelle qui aurait été achetée, hein, mais il n'est pas impossible d'imaginer que d'autres considérations que simplement le plaisir du spectateur puisse entrer en jeu dans ce genre de critique-là. Donc, oui, en effet, pourquoi pas. Donc, aider au choix, c'est vrai que la question reste posée, et surtout la question de est-ce que c'est vraiment légitime d'estimer qu'il faudrait qu'il y ait des sortes d'experts qui nous disent ce qui en vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine. Je suis pas totalement persuadée de ça. C'est vrai que je reste un petit peu... Enfin, tu vois, dans mon cas, c'est vrai que j'écoute pas, par exemple, ce que les critiques professionnelles disent. Je vais voir par moi-même si j'aime ou si j'aime pas. Donc, et souvent, je suis pas d'accord avec les critiques que je peux entendre par ailleurs. Donc, je suis pas totalement convaincue que ce soit un argument suffisant. Voilà. Donc, toute cette question de critique pro reste en suspens, parce que finalement... quelle est l'utilité réelle, je n'en sais rien. À part évidemment, vendre du papier, placer du temps d'antenne.
Oui,
etc.
Ça reste un sujet intéressant. Donc voilà, c'est pour attirer un peu l'auditeur finalement, ou le téléspectateur.
Oui, c'est ça. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons, nous aussi?
Oui, mais de ton côté, c'est un partage de passion, quand même.
Bon, je continue avec les trois dimensions qui, me semble-t-il, doivent être prises en compte lorsque l'on critique une série. Alors évidemment, en fonction des critiques, en fonction de leur... de leur background personnel, etc. L'une sera privilégiée par rapport à l'autre, etc. Mais l'idéal, le critique idéal, j'imagine qu'il devrait se pencher sur trois dimensions particulières. La première, évidemment, la dimension artistique. Alors, la dimension artistique, ça peut être autant au niveau, évidemment, de l'écriture, ça peut être au niveau de la réalisation, ça peut être au niveau aussi de la gestion, de la sérialité, de la cohérence de la série en elle-même, etc. Donc, pour tous ces niveaux-là de savoir-faire, hein, finalement, on pourrait avoir une critique sur le niveau technique des créateurs. Certains sont spécialisés là-dedans, soit parce que eux-mêmes sont des faiseurs par ailleurs, et donc ils s'y connaissent particulièrement bien. Ce sont des scénaristes, ce sont eux-mêmes des passionnés de réalisation ou que sais-je, et donc ils peuvent donner leur point de vue là-dessus, et ça peut être très intéressant. Ou bien autre possibilité aussi sur l'inscription dans une histoire artistique. à travers les courants, à travers les techniques qui sont utilisées, à travers les innovations que eux peut-être verraient et que un spectateur un petit peu plus profane ne verrait pas immédiatement. Et là, ça peut être aussi intéressant de voir, ah, c'est super super beau de voir la manière dont telle série a repris le principe de telle autre, mais en la modifiant de telle manière, etc. Ça peut être évidemment toutes des analyses très pointues, mais auxquelles, en tant que spectateur non informé sur toutes ces techniques cinématographiques, on pourrait totalement passer à côté, quoi.
Oui.
Ok, je vois que tu es passionné. Voilà, donc deuxième dimension à laquelle la critique va devoir s'intéresser, ou en tout cas qui peut être intéressante, c'est la dimension de l'analyse du propos. Quel est l'intérêt du message qui est transmis ? Quelles sont éventuellement les avancées sociales qui sont véhiculées à travers cette fiction ? Comment est-ce que ça s'intègre dans des courants idéologiques, etc. Tu ne seras peut-être pas passé à côté de la constatation que c'était un petit peu plus ce que je fais, vu que je ne suis pas une spécialiste de technique cinématographique. Donc tout ce qui est plus le propos, comment on intègre ça dans l'air du temps, la pensée du moment, etc. Ça peut être aussi très 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 intéressant, comment les séries véhiculent une forme d'idéologie. Idéologie peut-être molle, hein, pourquoi pas, mais en tout cas idéologie bien bien présente et qui s'ancre encore plus à travers justement le partage de ces fictions-là. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Enfin, troisième dimension qu'il ne faudrait surtout pas mettre de côté, mais c'est aussi le partage d'une expérience, tout simplement. Certaines des critiques que j'ai pu lire se contentaient simplement de ça, de partager la passion émerveillée ou bien le dégoût, que sais-je. Quand c'est bien écrit, ça vaut vraiment la peine aussi. Donc ici, on va avoir plutôt à des vrais fans, hein, à des gens qui suivent la série avec passion et qui vont pouvoir partager leur ressenti sur tel ou tel épisode phare. Et ce sera absolument passionnant de pouvoir les lire. Donc ça aussi, ça peut faire partie de l'intérêt de la critique. Donc au final, les trois dimensions, ce sera quoi ? Ce sera la question de la beauté, en général, la question de la vérité, entre guillemets, hein, qu'est-ce que ça nous transmet de notre réalité, et puis la question du plaisir.
Ouais.
Voilà.
Merci.
Musique ?
Bah, tu le proposes, alors, moi je prends. Hein.
Allez, musique, on va s'écouter Kind Dick the Feeling, chanté par Jonathan Jackson dans Nashville.
What it feels like. Apples in the Garden of Eden. Oh, when I can't sleep. Oh, I'm in too deep. Can't look back, don't look down. Everything just spinning round the ceiling. You slay.
Cherry Folly, ça continue de plus belle. Avec le sujet du jour.
Bien vu.
Qui me passionne toujours autant.
Oui.
La critique
rendors-toi,
des
ben,
séries télé. Quelles en sont les limites? Que ne peut-on pas dépasser?
Oh là, il a réussi à retomber sur ses pattes. Ce fut long et douloureux, mais il y est arrivé.
J'ai une petite fiche sous les yeux, pas trop mal écrite pour une fois. Alors.
Ok, merci pour la vanne, là je me vengerai. Donc, les limites de la critique. Premièrement, évidemment... Première limite, mais c'est le fait que bien souvent, la critique est très subjective, hein, finalement. Et pas seulement parce que, oui, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Évidemment que ça dépend des goûts de chacun. Mais aussi, puisqu'ici, on va estimer qu'on a quand même affaire à des gens qui s'y connaissent quand même un minimum et qui donc essaient de ne pas faire part uniquement de leurs ressentis, comme malheureusement je le fais un petit peu trop souvent en début d'émission, à dire « ouais, ça j'aime pas, ça j'aime bien ».
On sait pas pourquoi, mais tout le monde aime bien, mais moi j'y arrive pas.
Ouais, moi j'aime pas, voilà. Ça c'est vraiment le rat des pâquerettes de la subjectivité, on va dire. Mais même si on essaie d'avoir un propos un petit peu plus savant en parlant des trois dimensions dont j'ai parlé précédemment, ben, malgré tout, on a chacun nos limites liées à nos spécialisations. Il est impossible de tout connaître, hein, ne serait-ce qu'au niveau des séries, il est impossible de connaître l'ensemble de l'histoire des séries depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Et même dans les séries d'aujourd'hui, il est devenu totalement impossible pour quelconque être humain normalement constitué, de tout regarder. Hein. C'est ce qu'on appelle l'époque de la peak TV, on est en plein dedans, et donc plus personne ne peut prétendre vraiment tout regarder. Je sais pas si c'était vraiment le cas avant, mais en tout cas, ça l'était un petit peu plus malgré tout que maintenant.
Bah en tout cas, t'as essayé, toi, d'atteindre cet objectif, hein, de pouvoir quasiment tout manger.
J'essaie de regarder tous les pilotes qui m'arrivent. Malgré tout, je constate que d'année en année, le nombre de pilotes qui restent sur le côté et que j'ai jamais le temps d'aller regarder commence à s'agrandir. Et puis aussi, il faut bien admettre qu'il y a plein de pilotes qui ne m'arrivent tout simplement jamais, mais on en reparlera un petit peu plus tard si tu veux bien. Mm-hmm. Donc ça, c'est déjà rien qu'au niveau des séries, mais même si on pouvait regarder toutes les séries, elles exigent pour certaines d'entre elles, pour beaucoup même d'entre elles, d'avoir en plus des simples connaissances séries, des connaissances en cinéma, des connaissances en comics, des connaissances en musique, des connaissances sur la politique de tel ou tel pays, etc., etc. Donc finalement, il y a toujours moyen d'apporter un point de vue savant et éclairant, différent sur une série. Donc d'un côté, c'est intéressant, ça permet de multiplier les regards, mais d'un autre côté, évidemment, ça signifie que jamais vous aurez la critique parfaite d'une série, hein. Il faut pas rêver. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut bien constater qu'on est dans un milieu de culture populaire, et comme toujours dans la culture populaire, tout est largement marqué par des gros buzz qui cachent un petit peu le reste de la forêt, si tu vois ce que je veux dire, hein. D'un moment à l'autre, on va pouvoir avoir des grosses folies pour telle série qui vient de recommencer ou qui vient de sortir, et là plus personne ne parle d'autre chose, tout le monde ne parle que de ça, ça débat dans tous les sens, etc. Mais par contre, il y a peut-être plein d'autres petites séries qui passent totalement inaperçues, alors qu'elles valaient largement le coup d'œil, simplement, elles n'ont pas la place pour s'exprimer, quoi. Donc ça, c'est aussi une des limites. on est souvent malheureusement dépendant des buzz du moment. Ensuite, on a aussi la question de la comparaison. Finalement, est-ce qu'il est vraiment possible d'apporter un point de vue juste sur les séries, alors que d'une chaîne à l'autre, d'un pays à l'autre, etc., etc., les circonstances de production, les budgets, etc., sont tellement différents que ça n'a pas grand-chose à voir, quoi. Et donc, il y a toujours la question de comment adapter notre propos critique aux conditions de production, de création de la série dont il est question dans notre critique. C'est aussi une question à laquelle il faut toujours être attentif, me semble-t-il. Je continue avec la suivante, c'est la question de du positionnement face au piratage. Et ça, ça reste un grand, grand mystère. Hein.
C'est pas évident.
C'est pas évident du tout. D'un côté, c'est vrai, il faut malgré tout bien l'admettre, que depuis quelques années, l'accès aux séries s'est quand même largement amélioré par rapport à la situation précédente.
Donc l'accès aux séries via des services tout à fait légaux, tu veux dire ?
Oui, bien sûr.
Parce que l'accès aux séries...
L'accès légal s'est beaucoup amélioré, c'est vrai. Notamment grâce à Netflix, mais pas que. Hein, grâce aussi aux diffusions H+24, comme on dit, qui nous permettent de regarder certaines séries qui sont diffusées aux États-Unis très rapidement après leur diffusion. Mais en même temps, on peut constater que malgré tout, il y a toujours une forme de course à regarder la série le plus vite possible, une forme de pression sociale, entre guillemets. On a parlé du fait qu'il y avait des modes et une sorte de buzz qui se passait à certains moments, mais ce buzz signifie qu'il y a une communauté et que la communauté peut parfois aussi pousser à nous donner envie de plutôt aller voir du côté de ce qui n'est pas tout à fait légal. Quel est l'intérêt ? Quelles sont les limites qu'on va pouvoir se donner ou pas ? Et surtout, quelles sont les limites qu'on va se donner une fois qu'on a franchi le pas dans la critique vis-à-vis du public. Ça ne t'aura pas échappé que dans le cadre de cette émission jusqu'à présent, on a mis de côté cette question de l'accès légal. Hein. Mmh. C'est un choix, mais en même temps, c'est un choix assez critiquable, il faut bien l'avouer. C'est un choix, quelque part, qui se veut... les politiques aiment bien ce mot-là, tu sais, c'est pas ouvert, c'est
bon.
Transparent. Voilà, qui se veut transparent, mais c'est pas du tout évident que ce soit le bon choix. Je peux pas m'empêcher malgré tout de me dire que dans les séries que j'ai préféré regarder cette année-ci, il y en a un certain nombre qui ne sont pas accessibles légalement chez nous. Et donc, est-ce que vraiment j'y aurais eu accès un jour sans le téléchargement illégal, je ne sais pas.
Oui.
Et encore puis, une fois...
Ce qu'on peut peut-être signaler, c'est que les vrais passionnés, ceux qui téléchargent le plus, entre guillemets, illégalement pour leurs petits besoins, ce sont aussi ceux qui achètent le plus les DVD ou les séries en mode original.
En tout cas, c'est mon cas, c'est vrai. Hein. Je pense par exemple à la série Preacher. C'est vrai que c'est une série que j'ai téléchargée illégalement. C'est vrai aussi que dès qu'elle est sortie en DVD, mais je me la suis procurée parce que c'est une passion. Mais maintenant, est-ce que...
Tout le monde ne le fait pas, hein, attention. Mais
pas forcément. Non.
C'est le meilleur incitant pour l'achat, c'est de pouvoir tester, justement.
Oui. C'est de pouvoir tester. Mais en même temps, c'est vrai aussi que pour les chaînes qui souhaiteraient de les diffuser par la suite, c'est peut-être un petit peu dommage.
Ah ben c'est ballot. Il fallait les proposer autrement, plus accessibles, à des horaires qui nous conviennent et plus vite.
Ben oui, c'est aussi là malheureusement que le bât blesse souvent. C'est que le sériphile a été si longtemps maltraité par les chaînes de télévision que il a tout simplement arrêté d'attendre quoi que ce soit de celle-ci. Et quelque part, c'est pas entièrement non plus de sa faute. Hein. Donc voilà, la question reste entière. Moi, je dois t'avouer qu'il y a malgré tout une question de liberté de choix à nouveau. Hein. J'avais dit au niveau des critiques, au nom de quoi finalement ce serait le critique qui servirait d'entonnoir à la base et qui me dirait « oui, ça tu peux regarder, ça tu peux pas regarder ». C'est un petit peu la même chose pour les chaînes de télévision et l'offre légale qui me dit « ah oui, ça c'est disponible chez toi ». Mais ça le sera jamais. Et donc, il y a peut-être des séries que j'adorerais, mais auxquelles j'aurais jamais accès. Bon, bref, on ne va pas refaire le monde ici.
Ah non, c'est pas ici qu'on va trouver la solution.
Mais la question, en tout cas, reste posée. Dernière limite, enfin, dont je parlerai, c'est la question du partage. J'ai dit qu'un des buts, c'était de pouvoir partager sa passion. Hein. Mais finalement, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un partage ? Dans la mesure où souvent on constate malgré tout que les possibilités de débat sont assez limitées, ou bien est-ce qu'il s'agit simplement de renforcer un petit peu sa conviction qu'on a bon goût en soumettant simplement notre avis et en étant entouré de gens qui sont du même avis que nous. Et donc on est aussi dans une sorte de spirale comme ça où on se dit « oh, qu'est-ce que j'ai bon goût ?» Regarde, « oh, mais qu'est-ce que je suis entouré de gens qui ont bon goût ?» J'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu de ça dans la notion de partage dans la communauté sériphile qui peut éventuellement aussi être un peu critiqué. Voilà.
Bien. Pause musicale imposée.
Pause musicale avec Tub Thumping de Shumba Wumba. J'ai réussi à le dire. Entendu dans No Tomorrow notamment.
déjà temps de clôturer cette émission avec tes petites conclusions par rapport à la critique des séries télé.
Oui, je vais terminer ici avec quatre petites remarques supplémentaires en guise de conclusion. La première, c'est qu'il me semble quand même que quand on fait de la critique série, il y a vraiment une nécessité de comprendre de la spécificité de la critique série. Pour moi, la critique série, c'est pas de la critique cinéma. Et j'ai horreur des critiques qui nous disent qu'il s'agit de... finalement, il s'agit d'un long film de, je sais pas, 6, 8, 10, 12 heures... ça m'horripile au plus haut point. La série, c'est pas censé être un film. Et quand c'est un film, je suis désolée, c'est que c'est une mauvaise série. Je ne démordrai jamais de cet avis-là. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, il faut reconnaître aussi l'importance de la dimension de partage dans la critique sériephile et la place d'une communauté très connectée. La sériephilie est une passion qui se vit en collectif, même si c'est un collectif connecté, avec évidemment toutes les passions de théories folles autour de telle ou telle série, etc. Ça met de la vie et c'est vraiment aussi ce qui fait le sel de cette passion-là par rapport à d'autres. Troisième remarque, évidemment, il va y avoir nécessité de trouver un équilibre entre un avis purement subjectif où on dirait simplement oui, j'ai pris du plaisir à regarder cette série-là ou non, j'ai pas pris de plaisir, et puis un intérêt purement objectif sur les qualités artistiques ou bien sur le message que nous transmet une série. Parfois, une série peut être très belle ou bien nous transmettre un message très honorable, mais être ennuyeuse à mourir, et parfois elle peut être absolument passionnante à regarder, mais avoir certaines dimensions peut-être idéologiques ou artistiques plus contestables. Donc voilà, il faut essayer de trouver un équilibre entre toutes ces dimensions-là. Enfin, je terminerai en disant que c'est une pratique évidemment qui est en constante évolution en fonction justement de ce que la technologie permet, de ce que les différents médias, ce à quoi les différents médias nous permettent d'accéder. C'était pas du tout la même chose à l'époque avant le binge-watching qu'après. Maintenant, on parle du speed watching ou fast watching, je sais plus comment on dit, enfin où on regarde en accéléré, pourquoi pas à nouveau, mais évidemment à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, ça permet aussi de changer les pratiques, et donc ça va aussi changer la critique série qui l'accompagne.
Évidemment.
Voilà.
Le mot de la fin. On vous rappelle que cette émission sera podcastée dans les prochains jours. Elle sera disponible via les différents liens habituels, hein, donc le site internet www.seriefolie.be. Ce sera publié également via les réseaux sociaux. Merci Aurore.
Mais de rien.
Rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle petite discussion.
Oui, comme toujours.
Un petit monologue, mais voilà. On va se quitter en musique.
On va se quitter avec Peter Gabriel et In Your Eyes, entendu dans Felicity.
Merci Aurore, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
So lost sometimes. resolution of all the fruitless searches. Oh, I see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes.
Your eyes,
the resolution,
your eyes,
of all the